Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. 6 milliards d'euros à la une, 6 milliards pour augmenter les soignants. Voilà ce que le gouvernement met sur la table. Comment sera répartie la somme? Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle satisfait les revendications? On va se poser toutes ces questions dans un instant. Et c'est la journée des milliards. Bayer Monsanto en donne 10 aux plaignants du Roundup aux États-Unis. Accord conclu. Un précédent formidable pour Corinne Lepage qui compte bien s'en servir dans les procédures lancées en France. Elle fabriquait des bonbonnes à oxygène pour les malades. Dernière entreprise à le faire dans le pays, Luxfer, a fermé l'an dernier. Syndicaliste et politique attendu sur place aujourd'hui près de Clermont pour demander à l'État de restaurer sa souveraineté. Désindustrialisation, pandémie et monde d'après dans 20 minutes. Le regard d'un homme qui aura traversé le siècle, le regard
d'Edgar Morin, qui publie « Changeons de voix » aux éditions de Noël. Il est donc l'invité du grand entretien de la matinale. Vous pourrez dialoguer avec lui au 01 45 24 7000.
Et dans ce journal, pollution, effet rebond, Paris championne d'Europe de l'air vicié un mois et demi après le déconfinement, circulation différenciée aujourd'hui dans l'agglomération. Le blues des coureurs de fond et du business des marathons après l'annulation des courses de New York et Berlin. Et un nouvel ancien album signé Neil Young, sorti aujourd'hui après 45 ans passés dans les tiroirs de l'Américain.
France Inter.
C'est le chiffre que tout le monde attendait, surtout depuis un mois, et le début du Ségur de la Santé. Le ministère l'a lâché hier soir, ce sera donc 6 milliards d'euros pour augmenter les salaires des soignants. Voilà de quoi discuter sérieusement maintenant pendant les 15 jours de négociations qui restent. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
6 milliards, c'est une somme, mais tout va dépendre de la façon dont elle sera répartie.
Oui, enfin, disent certains syndicats qui attendaient un chiffre depuis le début de ce Ségur, ce qui a d'ailleurs poussé Sud à claquer la porte. 6 milliards, cela paraît beaucoup sur le papier, mais cela concerne l'ensemble des hospitaliers. C'est loin d'être suffisant pour Ophélie Labelle de la CGT Santé et Action Sociale. Elle participait hier à la réunion avec Olivier Véran.
On n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre parce que 6 milliards d'euros, ça couvre pas l'ensemble des agents de la fonction publique hospitalière. Rien que si on allait sur l'augmentation de 300 euros pour le départ et ensuite sur la revalorisation des grilles. Donc on est loin de ce qu'on aurait pu attendre de correct.
Le ministre de la Santé a été hier très flou dans ses annonces aux syndicats. L'enveloppe annoncée prévoit d'augmenter l'intégralité des agents hospitaliers, administratifs et techniques compris. Ce à quoi s'ajouterait une hausse ciblée sur certains métiers, comme les infirmières ou les aides-soignantes. Les 6 milliards ne comprennent pas en revanche la revalorisation des salaires des médecins. Les négociations ont lieu à part. Mais ces 6 milliards comprennent également les établissements médico-sociaux, notamment les EHPAD, et les établissements privés. Mais là encore, cela reste peu précis. Les syndicats ne savent pas s'il s'agit d'une revalorisation des salaires de certains métiers ou de l'intégralité des agents. Une enveloppe trop maigre et trop de flou pour les participants qui invitent déjà à se mobiliser pour la journée du 30 juin.
Hélène Chevalier, reste donc 15 jours pour éclaircir et négocier tout ça. Et face aux soignants qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pendant la crise, la charge de Didier Raoult contre les autorités hier devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Le professeur marseillais fustige l'organisation archaïque des tests de dépistage, le confinement et l'arrêt des prescriptions de chloroquine, sa molécule miracle, plombée selon lui par les conflits d'intérêts au sein même du conseil scientifique. Didier Raoult qui n'en démord pas sur l'hydroxychloroquine, voilà ce que lui répond Philippe Juvin, le chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris.
Quand il dit qu'il y a eu une faute sur l'hydroxychloroquine, c'est son avis, c'est son intuition. Mais on ne fait pas de science avec de l'intuition. Alors vous savez, moi, j'ai pendant 2 mois été tous les jours à l'hôpital dans un milieu où il y avait du virus partout. Et tous les matins, j'ai pris un café au lait. Il se trouve que je n'ai pas eu le coronavirus. Je me suis fait tester il y a quelques jours. Et donc, je me demande si finalement, c'est pas le café au lait. Certains prétendent que ça pourrait être l'hydroxychloroquine. Moi, je pense que c'est le café au lait qui a fait en sorte que je l'ai pas eu. Non, si je dis ça sous forme de boutade, signifie que la relation de cause à effet en médecine, elle est complexe à mettre en œuvre. Et ce n'est pas parce que vous avez pris de l'hydroxychloroquine et que vous avez été guéri que vous avez guéri grâce à l'hydroxychloroquine. Je rappelle que 99% des gens guérissent guérissent spontanément.
Le docteur Philippe Juvin avec Jean-François Aquili. Faut-il reconfiner la Guyane ? C'est une mesure lourde au coût social élevé, dit la ministre des Outre-mer Annick Girardin à Cayenne. Mais il faudra l'examiner si le virus continue d'accélérer. 234 nouvelles contaminations enregistrées en Guyane ces dernières 24 heures. Aux États-Unis, on est proche des records avec 36 000 nouveaux cas détectés hier, essentiellement dans le sud du pays, de la Floride à la Californie, alors qu'en Australie, l'armée se déploie à Melbourne après l'apparition d'un foyer de Covid-19. Près de 200 cas recensés depuis la semaine dernière. Là, pas de virus, mais le cancer et les milliards de Bayer Monsanto. La firme allemande lâche 10 milliards de dollars, 9 milliards d'euros pour indemniser des dizaines de milliers d'Américains qui l'accusent d'être tombés malades à cause de son Roundup best-seller du glyphosate. 125 000 plaintes aux États-Unis. Il y en a d'autres partout dans le monde. Et c'est une bonne nouvelle pour Corinne Lepage, avocate engagée dans plusieurs procédures contre ce pesticide en France.
10 milliards, c'est une somme astronomique. Je ne pense pas qu'il y ait des précédents. Il n'y a certainement pas de reconnaissance de responsabilité en tant que telle, mais enfin, il ne faut pas être très malin pour comprendre que quand vous acceptez de payer 10 milliards pour indemniser, je crois, il y a 100 000 victimes, déjà c'est colossal, vous ouvrez une boîte de Pandore, parce qu'il y a des victimes dans le monde entier, il n'y a pas que les victimes américaines. C'est-à-dire que pour tous les procès que les uns et les autres, et moi j'en ai quand même quelques-uns, nous pouvons avoir en France ou en Europe contre le Roundup et contre le glyphosate, c'est quand même un précédent absolument génial.
Vous allez vous en servir?
Bien entendu. J'ai un procès à la Cour d'appel de Lyon où Monsanto a fait appel d'un jugement où j'ai fait annuler une autorisation de mise sur le marché de Roundup. Vous pensez bien que je vais l'utiliser, et plusieurs procédures également contre le gouvernement français. Et maintenant, au niveau de la Commission européenne aussi, nous sommes en train d'agir pour le collectif des maires anti-pesticides. Donc tout ça va tout à fait dans le bon sens pour les victimes.
La France qui doit interdire le glyphosate théoriquement à partir de l'an prochain.
Il est 8h08, c'est l'histoire d'une entreprise qui pourrait bien devenir l'emblème, Florence, de la souveraineté perdue de l'économie française.
Luxfer, dernière usine de France à fabriquer des bonbonnes à oxygène à usage médical jusqu'à l'an dernier. L'usine de Gerza dans le Puy-de-Dôme est fermée depuis un an. 136 salariés sur le carreau. Leaders syndicaux et politiques s'y retrouveront aujourd'hui, Maxime Debs, pour demander à l'État de reprendre la main.
Et c'est Philippe Martinez, attendu aujourd'hui sur place, qui, ici même sur France Inter, l'a appelé de ses voeux en début de semaine.
Il faut que le monde de demain ne soit pas le même qu'hier. Il faut un État stratège.
La CGT, dont le représentant chez Luxfer, Axel Perongic, attend aujourd'hui de cet État qu'il change clairement d'attitude.
La première fois qu'on est monté les voir, en janvier 2019, il nous avait dit si un actionnaire a décidé de casser son jouet, on le laissera faire parce que c'est ça le libéralisme en France.
Depuis l'usine dernier producteur de bouteilles d'oxygène à usage médical en France, celle qui aurait tant aidé face au virus à fermer, son actionnaire rechigne à céder les murs. Quant aux salariés, ils ont vécu un confinement pour le moins particulier.
C'est sûr que d'avoir passé toute la période du confinement, avoir nos produits défiler à la télé, de voir des décisions aussi qu'ont pris l'État français pour éviter des pénuries sur le territoire, c'est terrible quoi.
Fin mars, Jean-Luc Mélenchon, qui sera lui aussi du rendez-vous aujourd'hui, avait réclamé de son côté la nationalisation du site en vain. Jean-Louis Bory, avocat des Luxfer, en charge de nombreux dossiers industriels comme celui-ci dans les territoires, ne cache pas, lui, son inquiétude, qui plus est, dans la période.
On a énormément de fermetures qui sont intervenues les dernières années. On va de catastrophe industrielle en catastrophe industrielle. À un moment donné, si les pouvoirs publics ne se donnent pas les moyens d'enrayer l'hémorragie, ça va être aussi une catastrophe humaine.
C'est donc pour éviter cette catastrophe que syndicats et politiques vont tenter aujourd'hui de donner de la voix en espérant qu'elle porte jusqu'aux fenêtres de l'exécutif.
Maxime Debs, si on reste dans le Puy-de-Dôme pour notre série à 3 jours du second tour des municipales. Direction Clermont-Ferrand, où l'on vote PS sans discontinuer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais on n'est plus sûr de rien à Clermont, où la République En Marche s'est alliée avec les Républicains pour faire tomber le socialiste sortant. Alliance contre nature et contre les états-majors. Karine Bécard.
Le candidat de La République En Marche, Éric Fédy, a surpris tout le monde en décidant de fusionner avec la droite clermontoise, une droite vauquiésiste qui, comme Gérard Collomb à Lyon, lui a coûté l'investiture de son propre parti.
Ah bah écoutez, on m'a promis l'extradition, on a même envisagé un bûcher place de Jaune. Pour l'instant, je n'ai vu ni l'extradition ni le bûcher.
Ça l'amuse. Mais son allié désormais, Jean-Pierre Brenas, avait tout de même appelé au soir du premier tour les électeurs du Rassemblement National à voter pour lui.
À aucun moment j'ai discuté avec le Front National. Par contre, quand je suis sur le terrain et que les gens viennent me voir et qu'ils me disent hier soir en rentrant, il y avait un attroupement dans ma cage d'escalier, j'ai du trafic de drogue régulièrement, eh bien j'écoute cet électorat.
Moi, je les vois planquer la drogue.
Cet attelage de droite n'inquiète pas le maire socialiste sortant, Olivier Bianchi. En revanche, il a une autre adversaire, l'insoumise Marianne Maximi, avec laquelle, cette fois, il a refusé de fusionner.
Lui, son report de voix, il le souhaite plus sur sa droite que sur sa gauche. Il a choisi, lui, d'aller continuer son deuxième mandat en étant Macron compatible, comme il l'avait déclaré d'ailleurs il y a 2 ans, en faisant du Macron avant Macron.
En fait, Olivier Bianchi a surtout compris que les cols blancs, aujourd'hui, chez Michelin, sont devenus plus nombreux qu'autrefois les cols bleus.
J'ai souvent dit, Clermont n'est pas un viager pour la gauche. Donc, plus le temps passe, plus l'alternance mathématiquement s'approche.
Et c'est bien là le principal souci d'Olivier Bianchi. Après 75 ans de socialisme à Clermont-Ferrand, comment lutter contre l'usure du pouvoir? Comment donner l'impression de se renouveler dans la continuité?
Voilà, Clermont n'est pas un viager pour la gauche. Merci Karine Bécard. Et puis au chapitre immobilier et politique, le nouveau déménagement du Parti Socialiste. 2 ans après avoir quitté Paris et la rue de Solferino, le PS veut abandonner Ivry pour revenir dans la capitale, cité Malesherbes, dans le 9e arrondissement, la même où siégeait la SFIO. Le parti est en train de négocier un échange de locaux avec la fondation Jean Jaurès. Fini le ciel dégagé et l'air pur, fini la seule bénédiction du confinement. La pollution est bel et bien de retour en région parisienne. Les concentrations en dioxyde d'azote en hausse de 120% par rapport au mois d'avril, record d'Europe en termes de rebond, plus une alerte à l'ozone aujourd'hui. Seuls les véhicules au macaron critère 0, 1 et 2 autorisés à circuler dans le périmètre de l'A86. La preuve, Sandy Dauphin, que la circulation a massivement repris.
L'ozone est le polluant estival par excellence et c'est bien le signe que la chaleur et les embouteillages sont de retour en Ile-de-France. Charlotte Songeur, ingénieure chez Air Paris, l'organisme indépendant qui surveille la qualité de l'air en Ile-de-France.
L'ozone, en fait, c'est un polluant fabriqué à partir des polluants que l'on va émettre, donc les oxydes d'azote qui proviennent principalement du trafic routier, les composés organiques volatiles qui vont venir de tout ce qui est colle, aggloméré, industrie. Et il va y avoir une réaction qui va créer de l'ozone. C'est une réaction qui a lieu toute l'année, mais quand il va faire très beau et très chaud, cette réaction va être décuplée et on va avoir des niveaux d'ozone qui vont augmenter fortement.
Pendant le confinement, la qualité de l'air s'était nettement améliorée en Ile-de-France.
Jusqu'à 4 fois moins d'émissions de polluants au début du confinement.
Mais avec la reprise de l'activité, les polluants, notamment les dioxydes d'azote issus des pots d'échappement, sont revenus à leurs niveaux habituels d'après les mesures d'Air Paris.
C'est revenu progressivement. La première phase de déconfinement, on était revenu à 80%. Depuis, on est revenu à 100% des émissions de polluants et on n'a pas encore de surplus. Ça sera peut-être possible, donc on suit semaine après semaine encore pour voir s'il y a un effet de surplus ou pas sur le trafic routier.
En France, on estime que la pollution de l'air est responsable de plus de 48 000 décès prématurés par an.
Et ne pas trop compter sur le RERB en Ile-de-France. Aujourd'hui, trafic très perturbé toute la journée et demain au moins après le déraillement d'un train qui ne transportait pas de voyageurs hier soir. Pas de quoi décourager un marathonien capable sur le papier de courir sur la moitié du parcours du RERB qui fait 80 km. Maigre consolation après l'annulation hier du marathon de New York cet automne pour cause de Covid-19. Un crève-cœur pour les coureurs qui voient se profiler une terrible année blanche. Blanche, Guillaume Batin.
4 fois champion de France dans les années 80 et 90, Dominique Chauvelier, meilleur temps 2h11, organise le voyage à New York et la préparation pour des coureurs amateurs depuis 25 ans. Et pour lui, cette annulation n'est pas une surprise.
Toutes les courses s'annulent les unes avec les autres, même des courses modestes, des courses régionales. Berlin a aussi officialisé son forfait, son annulation aussi, qui avait lieu fin septembre. Donc le must marathon de New York, franchement, je crois que je m'y attendais. Ça fait 3-4 mois que ça dure et ça continue. Toutes les courses de septembre, octobre et maintenant novembre se trouvent annulées.
Déjà handicapé l'an dernier par le dépôt de bilan de l'agence de voyage Thomas Cook, cette annulation provoque des pertes économiques pour son entreprise, mais c'est surtout une grande frustration personnelle.
C'est ma passion de marathonien, d'accompagner les gens, de partager ma passion. Et tous ces coureurs à pied qui s'entraînent depuis des mois, qui grattent du pied pour mettre des dossards, et c'est pas possible. Donc c'est vraiment une année blanche pour le runner, et donc c'est un petit peu dommage pour tous ces gens-là. On est devenu un sport santé, mais on peut pas s'exprimer avec un dossard. C'est dommage.
Dominique Chauvelier a vécu la première annulation du marathon de New York depuis sa création en 1970. C'était en 2012, quelques heures avant le passage de l'ouragan Sandy.
Voilà enfin un disque confiné depuis 45 ans et qui sort finalement aujourd'hui, le dernier, Neil Young, qui est donc un vieux disque qui aurait dû sortir en vinyle et qu'on écoutera sans doute massivement en streaming. Aujourd'hui, Homegrown, sorti des cartons. Mathieu Culeron pour un retour au temps d'avant. Why is it so hard
to hang on? Homegrown est un album oublié qui a été enregistré entre juin 1974 et janvier 1975. Il était donc destiné à sortir peu de temps après Harvest, le chef-d'œuvre du chanteur canadien. Plusieurs titres seront plus tard éparpillés dans la discographie de Neil Young, d'autres n'existeront qu'en live avant la sortie de ce disque. I wanna apologize. The light shone from in your eyes. Homegrown est un road trip des amours contrariés, une géographie des ruptures. Neil Young nous amène à Mexico, au Kansas et en Floride pour une vision psychédélique d'une ville dans les années 50.
It looks so good, you know. They all had blue dresses and nice pants on, you know.
Les fans de Neil Young, première génération, ne seront pas déçus. On retrouve quelques perles de country folk comme ce magnifique White Line enregistré avec son groupe Crazy Horse. Écouter Homegrown, c'est comme regarder des vieilles photos de famille entre souvenirs et nostalgie, une façon aussi de constater l'incroyable inspiration qui s'empare de Neil Young dans les années 70.
Non, vous n'avez pas dormi pendant 45 ans, c'est pas Hibernatus, nous sommes bien le 25 juin 2020.
Merci Florence Paracuelos.